Bonjour Kamel. À propos de l'émission sur les abeilles, ça m'a rappelé le mot d'Einstein. Si les abeilles disparaissaient, les hommes ne leur survivraient pas longtemps. Voilà. Merci. Au revoir.
Bonjour. C'est Jacques de Vendée. Un petit message à la Terre au carré. Alors, de mon vivant, il y a eu très peu de lois en faveur de mes valeurs, de nos valeurs, la défense de la biodiversité, le système de la consigne pour réduire les déchets, la décroissance choisie et heureuse. Alors, je souhaite écrire dans mon testament, la possibilité, non pas de l'inhumation ou de la crémation, mais de l'humusation, qui n'est pas encore acceptée en France à cause des lobbies, les pompes funèbres qui s'opposent à ce nouveau choix écologique possible. Alors, il y a une petite vidéo sur l'humusation sur YouTube à regarder. C'est bien expliqué et c'est traité avec humour. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour, Elisabeth de Strasbourg. Suite à votre émission d'aujourd'hui et en observation, voici les pays les plus pollueurs au monde. Dans les trois premiers, 1, la Chine, 2, les États-Unis et 3, l'Inde. Ensuite, vu la période actuelle et les sommations du GIEC, que représentera l'impact de la guerre en Ukraine ? Les bombes rejetées, voire pire. Depuis des années, on impose des restrictions aux plus faibles, voire à ceux qui ne polluent pas ou peu. Sanctionnons les plus gros, une fois pour toutes. Et vu la période actuelle, eh bien, gardons le moral. À bientôt.
Edith Jura, bonjour à tous. Voilà, moi c'est pour empêcher la canicule. Je fais des cercles avec les bras tendus vers le ciel en pensant avec force que la pluie vienne. Enfin, ça fonctionne, il faudrait peut-être que beaucoup de personnes le fassent. Peut-être que ça peut changer quelque chose. Voilà, à bientôt.
Merci Edith pour votre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et la sécheresse. Mais finalement, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. En tout cas, si vous arrivez vraiment à faire pleuvoir, faites-le nous savoir sans délai. Nous sommes prêts aussi, nous, de notre côté, à faire des moulinets. Si ça peut aider, en tout cas 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. Vous pouvez y laisser vos messages quand vous voulez. Ils sont discrets, souvent nocturnes ou crépusculaires, on les remarque rarement et pourtant ils habitent là, tout près de nous, dans les villes. Eux, ce sont les petits mammifères parmi les espèces qui appartiennent à cette communauté animale. Eh bien, on trouve bien sûr des rongeurs comme les rats, les mulots ou les écureuils, mais aussi des hérissons, des musaraignes, des fouines ou des taupes. Étrangement, ces espèces natives ou exotiques d'ailleurs sont assez peu étudiées, alors même qu'elles jouent un rôle non négligeable, on va le voir, pour la biodiversité en milieu urbain et qu'elles peuvent même dans certains cas se montrer très envahissante. C'est l'occasion donc de nous y intéresser cet après-midi, de leur consacrer une terre au carré avec nos invités que je salue, Géraldine Véron et Benoît Pisanu. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Géraldine Véron, vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle au sein de l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité et Benoît Pisanu, vous êtes chargé de mission sur les espèces exotiques envahissantes au sein de Patrinat, c'est le centre d'expertise de l'Office français pour la biodiversité et vous êtes chercheur associé au Muséum. On va se retrouver donc dans un instant pour découvrir cette faune des petits mammifères des villes, avec les messages et les questions sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux, l'appli France Inter, avec vos messages vocaux. Racontez-nous vos histoires de mammifères si vous en croisez justement en ville. Camille Passauvert, ce sera 14h30. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui,
la Panthère des Neiges au César, statuette du meilleur documentaire pour le film de Maria Miguet et Vincent Munier, à qui j'ai donc passé un petit coup de fil pour que ces amoureux de la nature me racontent leur soirée bling bling.
Et bien voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardier avec à la technique Loïc Maricio.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Paris, son métro et ses habitants que le Parisien côtoie sans y prêter attention. De nombreux animaux ont élu domicile dans la ville et ne s'en portent pas plus mal.
On arrive sur la petite ceinture ferroviaire du 16e arrondissement qui se développe sur 1,2 km et on y a reconstitué plusieurs habitats.
Et pour les plus chanceux, les plus observateurs, à l'aube ou à la nuit tombée, près d'un parc ou d'un cimetière, la rencontre avec un hérisson ou même un renardeau n'est pas impossible.
Voilà, c'est un petit reportage de France 2 en août 2018 avec la voix de Xavier Japiot, qui est naturaliste. Qui sont donc ces petits mammifères qui habitent nos villes et qui pourtant nous sont peu familiers? C'est le sujet de l'émission avec vous, Géraldine Véron, Benoît Pisanu. Alors, en janvier dernier, Benoît Pisanu, vous avez publié dans The Conversation avec vos collègues Christiane Denis et Aude Lalis un article justement sur cette biodiversité méconnue des petits mammifères. Comment est-ce que vous expliquez d'abord ce manque de connaissances purement scientifiques sur ces animaux?
Probablement que, en fait, ce sont des petites espèces très communes, très discrètes, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'y intéresse très peu, tout simplement parce qu'on ne les voit pas. Mm-hmm. Par ailleurs, elles sont, comme je disais, très communes. Elles n'ont pas de particularité autre que, en fait, leur diversité. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un peu une...
Donc tout le monde s'en fout un peu.
Oui, c'est ça, tout le monde s'en fout.
Pour le dire de façon assez directe.
Tout le monde s'en fout.
Ouais, alors justement, tout le monde les connaît pas, tout le monde croit les connaître, et donc voilà, cette petite biodiversité commune est un peu abandonnée. On va préférer peut-être étudier des beaux animaux, etc. Ouais.
Ou de gros mammifères en ville, par exemple. Tout de suite, Géraldine Véro, ça va plus attirer l'œil du public, hein.
Oui, et sauf qu'il n'y a pas de très gros mammifères en ville, hein. C'est plutôt des, on va dire, des moyens, après.
Ouais.
Et effectivement, globalement, comme ce sont des espèces relativement communes et finalement assez peu nombreuses malgré tout en termes de diversité d'espèces, il n'y a pas forcément un attrait important, même si à l'heure actuelle quand même les études se développent.
On va le voir, il y en a beaucoup dont vous êtes occupé justement. Mais alors, quel serait le meilleur moment de la journée, hein, je prends vraiment 24 heures, pour voir quand même ces animaux, pour ceux qui souhaiteraient, Benoît Pisanu, le faire?
Ah, c'est tôt le matin. Ouais. Vraiment, c'est là où on fait les rencontres les plus sympathiques.
Mais assez tôt, c'est quelle heure, soyons
précis? On va dire par exemple, quand on va sur le terrain travailler, on commence dans l'heure qui précède le lever du soleil.
Ouais.
Et là, c'est à ce moment-là où il faut être un peu près, et puis c'est là où on a des chances de voir justement, en tout cas à titre personnel, à me balader un peu partout. C'est à ce moment-là que j'ai eu les rencontres les plus rigolotes avec des petits renards d'eau notamment. C'est vraiment, vraiment incroyable.
Ouais. Et sur de plus petits mammifères, alors même que des renards d'eau?
Plus petits mammifères, le problème là, c'est que même moi, en faisant énormément d'efforts, un campagnol qui se balade sous du lierre, hein, sous un tapis de lierre, c'est impossible à voir. Donc là,
des rats, on en croise facilement des rats quand même.
Les rats, c'est plus gros. Hein. Ouais. C'est déjà 300 grammes, on va dire.
Ah, on les compte pas dans les petits mammifères alors.
Petits rongeurs, pas micro mammifères.
Ouais. C'est quoi les moyens mammifères dont vous parliez tout à l'heure, alors Géraldine Véron, qu'on fasse un peu le casting.
Eh bien, ce qu'on va trouver en ville, ça va être ce qu'on appelle les petits carnivores, du coup, qui sont pas dans les micro mammifères, dans les petits mammifères, du style renard, fouine. Éventuellement blaireau dans certains cas, même si dans les grandes villes c'est plus rare. Donc c'est plutôt quand même des animaux de la taille d'un chien, d'un chat, voilà. Mmh. C'est de ça dont on parle, sachant que les grands, sont pas présents. Mais...
Est-ce qu'on sait justement quelle est la perception du public vis-à-vis de ces petits animaux, Benoît Pisanu? Vous avez enquêté un peu pour savoir?
Non, alors donc justement pas je suis plus écologue, moi du coup j'ai toujours regardé le monde à travers les yeux de ces petites bêtes là. Et en essayant de m'affranchir justement de mes a priori humains. Et donc du coup, moi ça manque, je pense, effectivement, de plus de connaissances. Alors, et ça existe, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent, de personnes qui s'intéressent aux relations homme-nature, homme-animal. Mais il faut qu'on croise plus fortement, plus fermement le point de vue des écologues, par exemple, avec... On va dire plus les sciences humaines, les gens qui ont plus l'habitude d'explorer les sociétés, les cultures.
Et là, votre travail, il concerne les villes de France métropolitaine ou c'est les mammifères de toutes les villes de partout? Parce que alors, du coup, ça change beaucoup les espèces, j'imagine.
Ah, tout à fait. Donc, alors là, le petit projet Muridé qui avait été initié et qu'on va tenter de poursuivre prochainement, c'est vraiment Paris. Parce qu'avec Christiane, Denis et Aude, en fait, on s'est aperçu, c'était au cours d'une séance de terrain, en discutant avec Christiane comme ça, on s'est aperçu qu'en fait... On a reconnu qu'en fait, quand on cherchait l'information sur Paris intramuros, notamment, c'était très fragmentaire, très peu. Et donc, du coup, comme modèle de grande ville, de grande métropole, de même grande mégalopole, mais occidentale, ça manquait un peu. Alors que, effectivement, par ailleurs, à Berlin, en Allemagne, ou dans d'autres pays d'Europe, il y a des études qui sont conduites. Je parle pas des Anglais qui sont... Je sais pas combien d'années.
Mais moi,
en avance,
je parlais même, j'imaginais en Inde, j'imaginais au Brésil, sur d'autres continents, carrément.
Oui, il y a des suivis de temps en temps. C'est vrai que c'est pas toujours facile de les étudier, comme on le disait pour la France ou pour Paris. On les connaît, on les étudie pas parce que c'est des espèces communes. Mais il y a de plus en plus de suivis. C'est pas forcément des études scientifiques et d'écologie, mais beaucoup de piégeage photographique, par exemple. Les Anglais l'ont fait beaucoup et font même travailler le public par des émissions de télé, etc., pour que les gens diffusent leurs informations, et ce qui donne des grosses bases de données sur la présence de certaines espèces. Mais j'ai des collègues, par exemple, en Inde, qui ont mis des pièges photos, qui se sont rendus compte qu'une espèce très rare, comme le chat pêcheur, dans certaines villes indiennes, il pouvait être présent.
Qu'est-ce que c'est le chat pêcheur?
C'est une espèce de félin qui est un chat qui pêche, comme son nom l'indique, mais qu'on pensait tous assez rare en fait, et qu'on voit très peu, parce que c'est une espèce très discrète qui demande certains types de milieux de vie et de proie. Mais dans certaines villes où il y a des points d'eau, où il y a de la nourriture, cette espèce peut s'adapter aussi en ville, ça se voit dans certains cas. C'est probablement aussi parce que ces espaces naturels diminuent, donc si elle trouve de la nourriture et des points d'eau. Et donc ce type d'études, qui sont plus des suivis, d'observation, ça se multiplie quand même dans beaucoup, beaucoup de villes du monde. Singapour est un autre exemple. Où on pourrait imaginer que voilà, il y a que des grandes tours et qu'on verra jamais rien, mais en fait il y a aussi quand même des espaces naturels, des grands parcs, et il y a beaucoup de jeunes notamment qui s'intéressent beaucoup à ces espèces, qui sont aussi pareil des espèces relativement communes. Alors après c'est des espèces exotiques pour nous, évidemment, mais elles sont sur place.
Et vous qui vous intéressez alors au raton laveur, Géraldine Véron, vous l'étudiez où alors exactement?
Alors nous on a commencé une étude sur le raton laveur en fait dans les Antilles, donc c'est une espèce qui a été introduite, donc on ne savait pas d'où elle venait déjà. Donc, même si on savait que c'était une espèce nord-américaine, pendant longtemps, ça a été considéré comme une espèce endémique des Antilles. D'ailleurs, c'était l'emblème du parc national et d'un zoo en Guadeloupe. Et donc par la génétique, on a bien pu confirmer que c'était bien, ça venait bien d'Amérique du Nord. On pense que ça a été introduit probablement au cours du XVIIIe siècle.
Mais on les trouve en ville ?
Et on peut les trouver. Alors, c'est une espèce qui, dans sa région native, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, peut se trouver en ville. Et on sait que les ratons laveurs...
Sur Internet, on voit parfois des présentateurs télé qui se font directement...
Voilà, tout à fait, qui viennent fouiller les poubelles. Les gens ferment leurs portes parce qu'ils ont toujours peur qu'ils rentrent et viennent voler quelque chose. Alors, à l'heure actuelle, c'est une espèce aussi qui est introduite, pas uniquement aux Antilles, en France, mais sur le territoire métropolitain, et qui est présente, en fait, dans beaucoup de pays d'Europe. Et dont l'aire de répartition est en train d'augmenter très rapidement. Et on sait qu'elle a un potentiel de se retrouver en ville, forcément, parce que c'est ses habitudes, on va dire. Dès qu'elle va trouver, elle est très adaptable, elle se nourrit de plein de choses, les poubelles vont l'attirer. Il y a trois gros noyaux de population en France, mais ces noyaux de population s'étendent. Ils viennent plutôt de l'Est, et puis après avec des noyaux sud-ouest qui sont un peu plus récents. Et on sait que, par exemple, on en trouve maintenant en région parisienne. Donc il y en a en Seine-et-Marne, et ça va peut-être s'étendre encore.
Benoît Pisanu, c'est quoi finalement l'enjeu d'étudier ces petits mammifères aujourd'hui? Parce que je le disais, ils ont un rôle écologique, on va le découvrir tout à l'heure, mais ça pose aussi des problèmes. On a des relations conflictuelles avec ces animaux, les jardiniers par exemple le savent bien.
Ben, tout à fait, il y a donc des interactions qui peuvent être perçues négativement, probablement souvent en relation avec le fait que il y a d'un seul coup un grand nombre de ces animaux qui se mettent à un peu courir partout autour de nous. Donc la perception est du coup un petit peu négative, et donc tout l'intérêt peut-être d'essayer de mieux apprécier la dynamique de l'ensemble de ces animaux, c'est que si on pense plutôt en termes de fonctionnement d'un écosystème, avec beaucoup d'espèces qui interagissent entre elles, se mangent les autres, si on fait juste le schéma chaîne trophique, donc peut-être que la perception, elle vient du fait que justement, comme il y a peu d'espèces en ville, elles ont peu de facteurs de régulation naturelle par ailleurs, et donc elles explosent en nombre, et là, effectivement, en nombre, elles peuvent être amenés à nous donner des soucis.
En tout cas, ces animaux jouent avant tout un rôle pour la biodiversité. C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Et puis, racontez-nous vos histoires de petits mammifères des villes. On attend vos messages sur le site de la Terre au Carré. Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. Keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free, not a captive
that's where I wanna be. Halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls, who's gonna catch me when I fall down?
Blame, la voix de Gabrielle sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
On a fait un inventaire de la faune et de la flore dans le jardin des plantes, dans lequel on a trouvé 380 espèces animales et 400 espèces de plantes environ. C'est un premier état des lieux et c'est un milieu urbain très riche. Bon, là, on a un arbre creux. Alors ça, c'est intéressant parce que ce genre de cavité permet à des hiboux, des chauves-souris, des chouettes, de pouvoir nicher. Et c'est intéressant d'en laisser vieillir pour que toute la biodiversité qui est adaptée à cet arbre-là puisse être présente également.
La voix de Vincent Graffin, délégué au développement durable et à l'expertise. C'est une vidéo du Muséum National d'Histoire Naturelle enregistrée en 2010 pour parler des petits mammifères des villes avec nos invités Géraldine Véron et Benoît Pisanu. Géraldine Véron, justement, on en compte combien de ces petits mammifères? On sait exactement par rapport au nombre d'espèces de mammifères dans le monde, qui est de plus de un peu plus de 6000, hein, je crois, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Déjà, il faut regarder ce qu'il y a comme espèce de mammifère en France avant de parler en ville. Donc, c'est à peu près 120 espèces. Et après, d'animaux vraiment urbains, on va en compter que quelques dizaines. Après, sur les micro-mammifères, il y en a un peu plus. Enfin, les chauves-souris, on dit qu'il y a une dizaine d'espèces, mais elles ne sont pas toutes forcément vraiment en ville. Elles vont parfois, certaines espèces vont être plus sur des parcs proches des villes.
Mais donc, vous parliez d'une faible diversité tout à l'heure. Hein.
Oui, c'est forcément une diversité plus faible que la diversité en milieu naturel. Si tant est qu'il y ait beaucoup de milieux très naturels en France, par exemple. Donc, c'est pour ça que dans d'autres pays où il y a des espaces naturels importants, la différence entre ce qui se trouve en ville et dans le milieu naturel est plus importante. Nous, on va plutôt comparer souvent au milieu environnant. Est-ce que dans les campagnes, est-ce que dans les milieux agricoles, est-ce que dans les villes, est-ce que dans les forêts, ça va être les mêmes espèces? Déjà, chaque espèce peut avoir un type d'habitat qui lui convient et qui ne va pas s'adapter nécessairement en ville. Donc, en fait, en ville, on va avoir des espèces soit très adaptables qui vont se plaire partout.
Lesquelles? Vous pouvez donner des exemples?
On parlait du raton laveur là, qui a une espèce alors exotique hein, chez nous, mais qui a un régime très diversifié, qui fait partie de l'ordre des carnivores, mais qui mange aussi bien des plantes que des petits animaux, qui peut aussi aller manger dans les poubelles. Mais on peut avoir aussi des espèces qui sont relativement spécialistes, mais pour lesquelles la ville va représenter en fait un substitut de son milieu naturel.
Ça veut dire quoi, spécialiste?
C'est-à-dire qu'une espèce qui a des besoins très spécifiques en termes d'habitat ou de proie, mais qui en ville va trouver en fait quelque chose qui ressemble à ça.
Exemple.
Ou des espèces très adaptables. Alors, je ne sais pas, peut-être Benoît aura des exemples. Moi, je dirais, même si ce n'est pas une espèce très spécialiste, mais par exemple, quand on parle de la fouine qui est un peu partout, on pourrait se dire que c'est une espèce qui s'adapte à tout. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle va trouver dans des milieux... Alors, elle ne vit pas qu'en ville, hein. Elle vit aussi dans les campagnes. Les gens en ont dans leur grenier, en général, vont détruire les isolants pour aller faire leur nid. Mais elle va trouver dans ses greniers, par exemple, un habitat qui est peut-être assez proche des types de gîtes qu'elle va trouver dans la nature. Donc, c'est pas forcément que des espèces qui s'adaptent à tout, hein, qui sont en ville. Ouais. Ça peut être des espèces qui vont y trouver quelque chose de spécifique qui ressemble à ce dont elles ont besoin. Puis après, il y a évidemment des ressources importantes en termes de nourriture pour beaucoup d'espèces. Hein. Donc,
Et il y a beaucoup de prédateurs aussi pour ces espèces, Benoît Pisani. Non,
en fait.
Est-ce que nos chats des villes, par exemple, sont de vrais dangers pour tous les rats, les souris, les musaraignes dont on parlait, les mulots?
Ça me fait penser justement tout à l'heure, le meilleur moyen de voir une de ces petites espèces, c'est d'avoir un chat à la maison qui va vous les ramener sur le pas de la porte. En fait, pour revenir sur Géraldine, il y a justement ce qui est très particulier, c'est qu'on peut voir des gradients. En fait, quand on prend des zones périurbaines, alors c'était des mots, enfin c'est un mot difficile à définir, mais là où il va y avoir plus de grands parcs ou de plus de grands espaces verts, et qu'on va vers l'intérieur du centre-ville, entre guillemets, où c'est beaucoup plus minéralisé, beaucoup plus modifié, on voit bien que il y a un gradient, c'est-à-dire que le nombre des espèces, par exemple, de micro-mammifères qui vivent, vraiment, avant au parc de Sceaux, va y avoir en fait, il y a du campagnol agreste, deux espèces de musaraignes, il y a du mulot, il y a du campagnol roussâtre, il y a de la belette, il y a de l'écureuil,
Beaucoup d'espèces verts.
Un grand espace vert. Et puis plus on va vers l'intérieur des villes, on s'aperçoit que certaines de ces espèces, petit à petit, seront arrivées. Où sont, justement, comme disait Géraldine, localisées uniquement dans des petits patchs d'habitat qui leur sont très favorables. Et, en général, celles qui sont le plus adaptables, comme tu disais, par exemple le mulot. Le mulot est une espèce, le mulot sylvestre, le mulot des forêts, la souris des forêts, est vraiment un animal qui vit aussi étroitement avec nous et qui s'adapte bien. Par contre, on parlait du campagnol agreste tout à l'heure, qui est un petit herbivore. Lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il est herbivore strict. Et au niveau de ses ennemis, ils sont pas très nombreux.
On a plein de messages pour vous de la part de nos auditeurs, des villes et des champs, j'espère aussi.
On a même Chloé qui nous écrit de New York. C'est la classe. Elle habite en pleine ville. Donc à New York, nous avons toute une famille de ratons laveurs dans le jardin, dit-elle. On les entend se battre toute la nuit. On a également un message de Sylvie qui, elle, habite en pleine ville à côté d'un collège à Cormeilles en Parisie, donc en banlieue parisienne. Et nous écrit que vers 22h, un renard passe sur le mur de sa clôture pour, dit-elle, je pense manger les croquettes des chats voisins. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle voit les renards passer comme ça. Et puis, on a deux questions qui concernent les fouines. Alors, toujours en banlieue parisienne, Zoé, qui habite dans le nord de Paris. Les fouines, dit-elle, se baladent entre jardins, parkings et rues. Et certains voisins disent, là, il faut absolument les piéger et les tuer parce que ce sont des nuisibles. Donc, elle demande ce qu'il en est de la réglementation. Et Yvon nous écrit pareil en disant que lui, il est à Lyon, pas très loin de Lyon, à 15 minutes du centre-ville. Il y a beaucoup de fouines, dit-il, y compris dans notre grenier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en respectant la biodiversité ?
Alors la première chose, c'est de savoir que quand on piège une fouine, il y en a sûrement une autre dans le secteur qui va venir s'y installer. Si le grenier en question est très favorable, c'est-à-dire qu'il a un accès, il constitue un bon habitat pour un bon gîte en fait, hein, pour que ces fouines viennent s'installer pour le repos diurne ou pour faire leur petit un gîte de reproduction, elles vont revenir en fait. Donc en général les gens les capturent. Les tuent.
Mais on a le droit, déjà la réglementation autorise.
Oui, en fait, il y a des espèces. Alors, j'ai plus en tête la réglementation spécifique. C'est pas des espèces chassables, mais c'est des espèces qui peuvent être classées dans la catégorie des animaux susceptibles de causer des dégâts, les ex-nuisibles. Même si la notion maintenant a été enlevée, ce qu'on réclamait depuis longtemps en tant que biologiste, ça n'a pas de sens en soi. Donc en fait, en général, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de comprendre par où elle rentre et d'empêcher cette entrée dans le grenier, par exemple. Mais c'est vrai qu'on sait par expérience qu'on peut piéger pendant longtemps ce type d'espèces et qu'elles reviennent. Ça peut même augmenter, dans certains cas, on l'a vu, ça peut augmenter la dispersion. C'est-à-dire que les animaux vont revenir coloniser facilement et même augmenter les mouvements des animaux. Donc c'est pas forcément très favorable de s'en débarrasser de cette manière, même si dans certains cas c'est autorisé.
Benoît Pisani, alors il joue quel rôle ces petits mammifères pour la biodiversité des villes alors spécifiquement ?
Ah ben c'est justement toute la grande question.
On ne sait pas vraiment encore ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont... Bon, enfin, si on voit encore une fois le point de vue de ces petits animaux, donc en fait, ils ont leurs propres caractéristiques biologiques, ils ont leurs propres exigences, et on a vu que par exemple, et donc leur propre fonction dans un milieu, on va dire, plus naturel, ou dans un écosystème plus diversifié, et donc si on admet que la ville où le, est un milieu très transformé par l'homme, très minéral, c'est pas tant le rôle qu'ils ont que qu'est-ce que l'on pourrait leur offrir comme espace pour qu'ils éventuellement remplissent ce rôle. Mmh. C'est un point de vue un petit peu différent.
On dit souvent qu'ils disséminent les graines, qu'ils jouent un rôle de jardinier, tout ça, on leur reconnaît quand même des vertus à ces animaux.
En fait, sans être vraiment des vertus, c'est donc leur caractéristique, leur trait biologique, effectivement. Par exemple, les hérissons sont très bonnes presse parce que ce sont les auxiliaires des jardiniers. Et ça, c'est vrai, quand on a des hérissons à la maison, dans le jardin, ça aide. Mais par exemple, les petites musaraignes, ce sont des insectivores qui vont aussi venir en auxiliaire de ce que pourrait éventuellement apporter comme, entre guillemets, service. Pas trop ce terme-là, mais enfin, on peut le voir comme ça, aux hérissons. Donc, ils vont pas manger les mêmes choses. Donc, du coup, ça va contrôler les populations d'insectes qui pourraient éventuellement poser des problèmes dans le jardin.
Et je parlais des taupes tout à l'heure. On en trouve en ville, aussi. Ouais.
Pas vu sur Paris. J'ai pas vu encore sur Paris.
On peut en trouver ou pas en milieu urbain?
Non, périurbain, oui.
Pour quelle raison?
Je
pensais aux galeries, justement. Je me disais, est-ce que ça peut creuser des galeries en ville, ces animaux?
À partir du moment où il y a des espaces de sol suffisamment profonds, et oui, il n'y a aucune raison qu'une taupe ne puisse pas s'y implanter. Par contre, je pense qu'elle a du mal à rentrer.
C'est le béton, forcément.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut imaginer toutes ces armatures et ces barrières.
Sont
extrêmement
des obstacles, ouais.
Voilà, obstacles à franchir. Après, juste pour la taupe, il faudrait aussi avoir une petite idée de quelle est la teneur en densité de vers de terre dans le sol. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les pelouses du Champ de Mars, mais je dis peut-être n'importe quoi.
Parce qu'il y a un lien direct entre vers de terre et présence de la taupe.
Oui, elle se nourrit beaucoup, essentiellement comme hérissons et musaraignes d'ailleurs, de ces petits animaux.
Allez, on revient vers vous dans un instant. Il y a plein de messages pour vous, questions auxquelles vous allez répondre pour les auditeurs de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Passauvert.
Et on voulait dans l'équipe revenir sur quelque chose qui nous a fait du bien, c'est rare. En ce moment, c'était vendredi soir.
Et le César du meilleur film documentaire est attribué à La Panthère des Neiges. Marie-Amiguet et Vincent
Mugnier. Le César du meilleur film documentaire pour La Panthère des Neiges. Ça valait le coup de se taper les quatre interminables heures de cérémonie à la télé avec un chouette discours.
Alors je peux vous dire que quand on est en train de se peler les michots au Tibet, 4500 mètres d'altitude, on pense pas être dans cet écosystème-là.
Ce film, c'est un partage de cet amour inconditionnel que j'ai pour ces bêtes qu'on oublie. Ce César, on aura envie de le dédier à la Panthère des Neiges, à tous les protagonistes du film. Mais je pense que ces animaux se moquent complètement de ce genre de trophée. Ils ont bien raison. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur laisse un peu de place, je pense. Voilà. Et merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Marie Amiguet et Vincent Mugnier en tenue de gala sur scène devant le tout Paris, la grande famille du cinéma. C'était franchement drôle à voir, hein, puisqu'ils sont plutôt habitués à être à l'affût et à l'arrache dans la montagne ou la forêt. Du coup, je leur ai passé un petit coup de téléphone quand même pour qu'ils racontent.
Oui, Camille Crodier, bonjour.
Coucou Camille.
Alors, comment ça va?
On est au soleil dans notre jardin. On est en train de tailler des arbres. On commence les semis du printemps pour les légumes et tout. C'est génial.
Des nichoirs surtout.
Voilà, des nichoirs. Les réalisateurs couples à la ville, dans les Vosges, sont retournés bien vite chez eux. Et vous aurez compris que le César n'est plus tellement leur préoccupation première, même s'ils sont ravis, bien sûr, d'avoir été récompensés.
Que ce soit quand même les professionnels du cinéma qui mettent ce genre de prix, alors qu'on est loin d'un film sensationnel habituel dans l'animalier, où on est sur quelque chose d'assez contemplatif, assez sobre, assez simple, dans la manière dont il a été fait. Ça fait quand même plaisir, c'est vrai.
On pensait pas aller toucher le cœur de gens qui s'en préoccupent pas, qui sont loin de tout ça parce qu'ils ont grandi dans d'autres sphères, et on les comprend parce qu'il y a un manque terrible d'éducation à l'environnement, à l'école, etc. Et on a été très très flatté, très touché, très ému, bouleversé de tous ces retours de gens qui nous disent mais merci. C'est comme si ça réveillait en eux des choses enfouies, mais des choses dont l'être humain a besoin pour se sentir mieux aussi.
et au sujet des spectateurs du film. Justement, je leur ai demandé si au César, certains invités prestigieux leur avaient dit qu'ils l'avaient vu. Alors là, Marie Amiguet m'a sorti une anecdote absolument mythique.
Quand on est remonté sur le podium pour faire tous la photo de groupe, on était nous un peu en retrait derrière, la photo des lauréats, il y a donc une dame qui se retourne pour me dire qu'elle avait aimé le film et qu'elle nous félicitait. Et puis bon, je la remercie et je me retourne vers Vincent, je lui dis « mince, je sais pas qui c'est ». C'était Isabelle Huppert. Tu vois, je suis tellement... on est tellement à l'ouest, en fait.
Voilà, pas vraiment dans leur élément. Vincent Munier en témoigne également.
On n'a tellement pas l'habitude de cet exercice. C'était quand même dur. Oh, le matin, j'étais avec mes petites mésanges. J'ai pris un train rapidement. T'es parachuté là-bas en smoking. On a hésité à venir avec nos bottes, les Golox, nos grosses bottes en laine tibétaine.
Et vous l'avez pas fait.
On n'a pas osé. On est timide.
Alors, comment ont-ils vécu ce moment où ils entendent leur nom?
Ouais, jusqu'au dernier moment, on se dit c'est pas possible, c'est pas nous, et puis tout à coup, bah c'est nous quand même. Donc là, on stresse parce que ça fait 2 heures qu'on se dit si c'est nous, il va falloir qu'on raconte quelque chose d'intelligent en 30 secondes, c'est peu. Et puis tout à coup, bah il faut y aller quoi.
Et voilà, 1 minute au total de discours. Ils auraient voulu insister d'ailleurs un petit peu plus longtemps sur la nécessité de laisser de l'espace aux autres animaux. Il n'y a pas que nous, humains. Leur foutre la paix, en somme. Ils auraient aussi aimé, sur les 3 nominations de la Panthère des Neiges, que Nick Cave et Warren Ellis remportent la meilleure musique.
On était déçus pour la musique. On espérait que Warren et Nick, ils aient quelque chose.
J'ai mis ma préférée. La cérémonie, cependant, elle a ses codes, hein, sans oublier le dîner aux Fouquettes, bien sûr, dont ils sont sortis à 5h du matin. Un petit dodo et...
Très vite, on est reparti. Le soir même, on était à l'affût au Grand-Duc.
Vincent, puis, Grand-Duc, moi, dans mon jardin.
Et Grand-Duc, j'ai eu un magnifique accouplement. C'était magnifique. Et puis là, je vais y retourner tout à l'heure. Donc, on a l'impression d'avoir vécu une parenthèse un peu irréelle, tu vois.
Et submergé de messages hein, comme quoi les gens suivent les Césars, qui vont d'ailleurs peut-être redynamiser le film hein, sur les écrans depuis quand même la mi-décembre. Il reste 160 copies, mais surtout, bientôt, un DVD avec 50 minutes de bonus sur les coulisses du film.
Parce que des fois, on entendait encore des bêtises, hein, même sur votre antenne, à France Inter.
Ah bon,
parce que la plume qui ont dit des grosses bêtises en disant que on y est retourné, c'est une adaptation du livre de Sylvain. Enfin, tu vois, il y en a encore beaucoup, même dans le monde du cinéma, qui se plantent totalement.
Ah là là, prends ça, le masque et la plume. Bon, Vincent Munier ensuite va poursuivre son nouveau projet sur la forêt vosgienne qui l'entoure et son père, naturaliste hors pair, pendant que Marie Amiguet, elle va se régénérer en admirant son César ou pas. Tiens, d'ailleurs, il est où? C'est quand même la question.
On l'a posé sur le plan de travail de la cuisine. Et il est à côté du sel et du poivre.
Et c'est véridique. César qui pourrait bouger, cela dit.
Donc, ça serait chouette d'aller ramener le César, le poser dans la grotte de la panthère, là, comme un sacre, tu vois, et ça serait chouette.
À cheval, on y va à cheval. Oui.
Voilà un beau projet.
We are not alone.
Salut.
Voilà, le César posé à 4500 mètres au Tibet, franchement, ça pourrait avoir de la gueule. Benoît Pisanu, est-ce que quand on est comme ça, vous dites, moi je prends le point de vue des animaux, est-ce qu'on est content que des films comme ça, comme disait Vincent Munier, assez contemplatifs, soient récompensés, y compris au César?
Ah bah bien sûr, le cinéma naturaliste est très important. Je pense que, je sais pas, ta vie un peu personnelle, mais c'est vrai que l'imaginaire nourrit notre envie et nos motivations. Et donc, et aussi la volonté d'essayer de chercher et de mieux comprendre et de mieux protéger. Je reviens juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, laisser plus de place. Et oui, en fait, on prend beaucoup de place, mais laisser plus de place aussi en comprenant les exigences que vont avoir tout ce vivant. Et on a beaucoup de connaissances, ça fait quand même des décennies qu'on travaille pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et donc, on a de quoi faire quelque chose pour mieux aménager et laisser la place.
Sauf que Géraldine Véron, c'est nous les humains qui prenons de la place sur le territoire de ces animaux. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Quand on revenait à notre sujet sur les animaux en ville, on peut se poser la question de savoir s'ils sont en ville simplement parce qu'on a pris leur espace naturel ailleurs. Moi, ce que je trouve amusant dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est qu'ils trouvent très difficile d'aller au César, mais aller observer la Panthère de Neige, si c'est pas difficile.
Ouais, mais c'est aussi un milieu sauvage.
C'est un milieu, oui, très sauvage.
Le milieu
sauvage.
Des Césars, c'est très, très sauvage.
Tout à fait,
on entendra un extrait d'un reportage dans un instant sur un renard londonien, parce que justement la ville a pris énormément de place sur le territoire des renards, ce qui fait que du coup, humains et animaux sont bien obligés de cohabiter ensemble. On se retrouve dans un instant. chant de Maldoror, c'était Léonie Pernet.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Levez-vous tôt le matin, c'est ce que vous nous conseillez tout à l'heure, Benoît Pisanu, pour voir ces petits mammifères en ville. Et Géraldine Véron, on en parle également avec vous. Alors, on évoquait les gros hein, également. Parmi ceux dont on entend beaucoup parler, les sangliers. Hein, il y en a dans quasiment toutes les capitales. C'est un vrai fléau par endroit. Et puis, les renards. J'évoquais Londres tout à l'heure. On va écouter tout de suite l'extrait de ce petit reportage de France 2 en 2019.
Avec leurs grandes oreilles et leurs museaux pointus, ils ne passent pas inaperçus. Dès que la nuit tombe, ils prennent possession des rues et font du centre-ville de Londres un territoire bien gardé. Des renards urbains que rien ne semble perturber, pas même la main tendue par l'homme. Lui, c'est Gaspard. Depuis 2 ans et demi, il rend régulièrement visite à cet habitant sur le pas de sa porte.
Gaspard
vit dans un petit jardin au fond de cette rue. En s'agrandissant, la ville de Londres s'est petit à petit étendue dans les campagnes et les renards ont dû trouver leur place. Ils sont très attachés à leur territoire. Ils y sont donc restés. Il y a aujourd'hui entre 30 et 35 renards par kilomètre carré.
Soit entre 8000 et 10 000 renards urbains à Londres.
Voilà, Géraldine Véron. On voit beaucoup ces images hein, aujourd'hui. C'est un problème justement de territoire, le fait de grignoter sur leur territoire hein, qui fait qu'on est obligé de cohabiter avec eux maintenant ?
Oui, enfin les renards. Après le renard, il a surtout trouvé en ville, notamment dans ces grandes villes où il y a des centres avec beaucoup d'espaces verts comme Londres, ce qui n'est pas le cas dans Paris intramuros vraiment. Une nourriture abondante. Enfin, c'est connu aussi que dans les jardins londoniens où il y a quand même pas mal de jardins, hein, plus qu'à Paris, les gens les nourrissent aussi. Donc voilà, il y a des sources de nourriture. Après, il y en a beaucoup qui se portent assez mal et il y a des populations qui se portent mieux que d'autres. Et il y a une grosse densité dans pas mal de villes anglaises. Il n'y a pas la même vision et le même contact avec la nature. Hein. Les Anglais sont assez fiers de leurs renards de jardin, comme ils mettent tous des pièges photos. Oui. Enfin, il y a eu des grandes émissions de télé en prime time pour que chacun monte ses photos et faire des grosses bases de données sur tous les renards dans les villes anglaises. En France, je pense qu'on
en a vu récemment, je crois, au cimetière du Père-Lachaise.
Tout à fait,
à Paris.
On en voit pas mal à Paris. Hein. Oui.
Et justement, sur le cimetière, je vais y arriver, du Père-Lachaise, on a un message de Marin qui nous explique que la page Instagram du conservateur du cimetière du Père-Lachaise est géniale parce qu'il photographie tous les mammifères et oiseaux du cimetière.
Alors là, on évoque bien sûr les gros mammifères hein, qui sont assez remarquables. Et alors, les petits qui sont au cœur de notre émission, Benoît Pisanu, vous occupez aussi des espèces envahissantes parce qu'ils posent aussi des problèmes. Certains viennent d'ailleurs, ils ont été importés. Et là, ça peut être vraiment la catastrophe par rapport aux espèces...
Native. Ouais, voilà. C'est vraiment une question de définition importante. Donc, l'espèce exotique envahissante, ce sont donc des animaux et des végétaux, donc qui par définition sont transportés en relation avec les activités humaines, que ce soit volontaires ou involontaires. Donc vraiment en dehors de leur aire de répartition naturelle. Donc ils se retrouvent brutalement implantés à l'autre bout du monde, on va dire. Et voilà, donc certains d'entre eux, la plupart du temps, ça peut ne pas fonctionner, c'est-à-dire qu'ils vont s'échapper et puis ne pas fonder une population dans le milieu naturel. Et puis de temps en temps, ça réussit. Donc il va y avoir des plantes ou des animaux qui vont fonder des populations pérennes, qui vont donc se développer sans l'aide de l'homme ou indépendamment de l'homme. Et parfois, donc, pour certaines de ces espèces, dont on peut évaluer les risques, vont éventuellement provoquer des déséquilibres.
Pensez à quelle espèce, par exemple ? Qu'est-ce qui nous concerne dans les villes françaises ?
Alors, en France, il y en a un certain nombre. Par exemple, il y a des exemples phares. Alors, il y a le raton laveur, je rebondis, qui est préoccupant. Il est d'ailleurs réglementé au niveau de l'Union européenne, donc il a été classifié comme étant un animal qui pouvait poser des problèmes.
Il y a des écureuils qui sont problématiques.
Voilà, les écureuils. Donc, certaines espèces d'écureuils. Alors, l'exemple emblématique, c'est l'invasion par l'écureuil gris d'Amérique de l'Angleterre, qui progressivement a conduit à une raréfaction, voire une quasi-disparition localement de l'écureuil roux natif, qui est donc la seule espèce d'écureuil arboricole, de suride arboricole qu'on a, on va dire, sur tout l'extrême ouest européen. On ne parle pas des marmottes, qui sont des écureuils. Et deux autres espèces, donc qui ont été introduites en France, l'écureuil de Corée et surtout l'écureuil de Pallas, qui est très localisée sur Antibes et sur la ville d'Istres, une petite commune au nord d'Istres.
Et il y a des politiques particulières pour essayer de rétablir l'équilibre ou pas ?
Alors, c'est une vraie question qui est problématique au sens où, pour résoudre les problèmes de ces introductions et du développement de ces introductions, il faut intervenir tôt quand il y a encore peu d'individus. Lorsque ces populations s'installent de manière trop importante, ça devient très 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 difficile de gérer. Et donc on essaie de limiter. Et oui, il y a des plans de régulation, notamment un plan national de lutte contre l'écureuil de Pallas à Antibes.
Patrick nous écrit de Montréal. Comment reconnaître un Français en visite à Montréal ? Ce sont les seuls qui nourrissent les écureuils dans les parcs. Les Montréalais considèrent les écureuils plus des nuisibles qui mangent les câbles électriques que comme de charmantes bestioles. On a également un petit message de Fabien qui nous... Alors vous allez me confirmer peut-être, Géraldine Véron, s'il a raison. Il nous dit la population de ratons laveurs de l'Oise est issue des anciennes casernes de soldats américains qui avaient ces animaux comme mascotte et donc les avaient apportés avec eux de retour aux États-Unis. Ils ont laissé ces animaux en France et il ajoute qui sont une calamité pour les nids de passereaux en particulier. C'est vrai ça, c'est les Américains qui nous les ont ramenés ?
Alors partiellement, en tout cas ponctuellement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pense, même si je ne sais pas si on a des vraies preuves, mais enfin on pense que certaines bases américaines ont effectivement ils avaient des ratons laveurs comme peut-être mascotte ou voilà et les ont laissés en partant. Après, l'essentiel des populations viennent probablement pas de là. Il faut savoir que le raton laveur est un animal qui était élevé pour la fourrure, notamment en Europe centrale, et que les populations en fait se sont étendues et il y en a beaucoup en Allemagne ont gagné en fait, vers l'ouest de l'Europe, et qu'une grande partie des populations vient probablement de cette expansion de ces animaux échappés ou relâchés de ferme à fourrure. Et après, il y a d'autres populations, comme au sud de Bordeaux, il y a une population de ratons laveurs dont on ne connaît pas très bien l'origine. Ça peut être des échappés d'animaux, soit peut-être de zoos, mais aussi de gens qui en avaient captifs. Hein. C'est des animaux qu'on trouve très mignons quand ils sont petits. Après, c'est ingérable, évidemment. Ce sont des animaux sauvages. Et que probablement certaines populations viennent aussi d'évasions comme ça ponctuelles d'animaux captifs.
Un autre message de Camille sur franceinter.fr qui habite à Zurich. Elle nous raconte qu'il y a 2 semaines, la nuit tombée, je pars faire un jogging dans le bois juste au-dessus de chez moi. Je tombe nez à nez avec un lynx. J'ai bien vu ses yeux dans ma lampe frontale, ses oreilles fantastiques et sa courte queue. Je n'en croyais pas mes yeux. Donc les lynx se rapprochent de la ville, Benoît Puisanu. C'est une possibilité.
Bien sûr, c'est plus, Géraldine, il faut poser la question sur les grands, on va dire, moyens grands carnivores, mais oui, bien sûr, on peut retrouver, il y a l'expansion du loup, qui est bien suivie, quand on voit ne serait-ce que l'aptitude à se déplacer, l'amplitude, les distances qu'est capable de parcourir, sont capables de parcourir, par exemple, un loup. En une semaine, on se dit que si on en observe un, je sais pas moi, à Strasbourg, la semaine d'après, la Brest, quoi. C'est à peu près ça, quoi.
On pose la question à Vincent Munier, parce que lui, il les connaît bien, justement.
Quelle chance de voir un lynx, surtout. Ouais. Et ça veut dire aussi que, voilà, le fait de transmettre ce message montre bien l'émerveillement qu'on peut avoir à observer ces animaux. Et c'est vrai que les lynx sont pas forcément des animaux qu'on va retrouver en ville partout. Si on les dérange un peu moins, on va peut-être avoir de la chance. Mais c'est quand même des animaux très discrets qui ont besoin d'espace. Donc c'est assez compliqué, effectivement.
Benoît Puisanu, est-ce que ces populations de mammifères sont en déclin comme le reste de la biodiversité ? C'est-à-dire que ces petits mammifères des villes, est-ce qu'on quand même on enregistre aussi de fortes pertes de population ?
Alors ce qui est attesté, y compris pour cette petite diversité commune, c'est qu'effectivement, non seulement elles se réduisent en nombre, mais en quantité, en abondance. Et donc, ça c'est vraiment parmi les grandes causes de l'érosion de la biodiversité. On cite souvent la surexploitation des terres et des mers, la surexploitation des organismes, etc. Et l'urbanisation, notamment, est aussi l'une de ces grandes causes. Et effectivement, conduit à une raréfaction, une banalisation. Encore une fois, on a nombre d'espèces qui diminuent à la fois en richesse et en nombre, au profit de quelques-unes qui s'adaptent bien et qui s'adaptent donc du coup bien partout. On se rappelle un peu une vision de la banalisation de la biodiversité en ville.
Un autre message sur franceinter.fr d'un jardinier dans un parc en plein centre de Lyon. Nous savons que des blaireaux, des furets passent régulièrement par identification des crottes. Nous avons des chauves-souris pour lesquelles nous avons d'ailleurs ajouté des abris, des hérissons qui nichent notamment dans nos haies mortes, des écureuils et même un renard que nous avons piégé photographiquement. Il y a aussi certainement beaucoup d'autres petits rongeurs non identifiés vu la quantité de terriers. Donc, il s'installe parfois dans les parcs des grandes villes, Géraldine Véran.
Oui, tout à fait. En fait, on parlait de cette baisse de diversité. C'est vrai que probablement au 19e siècle, dans une ville comme Paris, il y avait peut-être plus de faune sauvage qu'il y en a maintenant. Après, il y a probablement ces dernières années un peu un retour de ces animaux parce que on reverdit un peu les villes et aussi parce que beaucoup de villes ne traitent plus chimiquement leurs espaces verts, ouais. Ce qui n'est pas le cas des campagnes alentour et même des jardins des particuliers qui ont tendance à acheter pas mal de produits pour traiter tout ça. Et donc, il y a probablement un effet de retour de ces espèces et qui retrouvent des milieux favorables et peut-être aussi que le public en général est peut-être plus bienveillant maintenant que c'était le cas il y a peut-être quelques années.
Nos invités Géraldine Véran, Benoît Pisanu pour nous parler des petits mammifères des villes. Benoît Pisanu, la dératisation, ça fait partie justement des campagnes qui sont organisées pour se débarrasser des rats en particulier. Est-ce que d'abord c'est efficace? Est-ce que ça pose de problèmes pour d'autres espèces?
Alors, donc tout dépend des méthodes et des techniques, mais effectivement, lorsqu'il y a, donc, comme on disait tout à l'heure, surabondance, qui peuvent donc du coup provoquer à la fois des agréments et risques, les techniques de lutte qui existent et qui ont existé pendant longtemps étaient en fait l'emploi de luttes chimiques. Et ces luttes chimiques ont un impact plus ou moins direct sur les autres animaux et sur les autres espèces qui cohabitent et qui vivent autour. Le cas le plus classique, il y a une belle étude là, il y a pas très longtemps qui vient de sortir sur les effets sur le hérisson, qui sont quand même affectés, pas directement, puisque c'est par la consommation donc de petits insectes qui vont boulotter les appâts empoisonnés que ensuite les hérissons consomment et se retrouvent en partie affectés, et ou des rapaces, donc les prédateurs. Donc ça pose des problèmes, oui.
Ouais. Et Armageddon, donc c'est une étude d'ailleurs dont on avait parlé dans cette émission, qui a toujours lieu en ce moment, étude sur les rats.
Voilà, avec coordonnée par Audelalis, avec tous les collègues, donc le Muséum, l'Institut Pasteur, Vétagro Supplion.
Il y a un volet sanitaire.
Il y a un volet sanitaire avec l'Institut Pasteur, effectivement, qui est partenaire du consortium. Et donc, ça se poursuit encore cette année.
Pour mieux connaître les rats.
Voilà.
Et l'émission, c'était le 31 mai dernier, pour ceux qui voudraient la réécouter.
D'autres messages, Camille?
Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Géraldine Véran, au sujet des fouines, Dominique nous écrit, j'ai eu l'occasion de cohabiter avec une fouine qui appréciait mes combles inaccessibles pour moi. Difficile de trouver plus bruyant, notamment à l'époque du rut ou lorsque les jeunes commençaient à jouer. Je l'ai parfois insultée quand elle m'empêchait de dormir, mais pour rien au monde je ne l'aurais chassée. C'était vraiment bien de savoir qu'une espèce sauvage cohabitait chez moi. Donc une petite coloc avec une fouine, ça peut se faire.
Ça peut se faire, oui, mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant et notamment les fouines ont tendance à utiliser les matériaux isolants pour fabriquer leur nid. Donc c'est vrai que ça peut poser problème. Oui, c'est assez bruyant à certaines périodes. Donc le mieux, c'est de trouver par où elle passe.
Vous êtes intéressé à la mangouste indienne, c'est ça aussi?
Oui, qui est aussi une espèce exotique envahissante.
On la trouve où?
Et on la trouve aux Antilles, on la trouve en France, en Guadeloupe, en Martinique notamment, à Saint-Martin.
Ouais.
Et qui est une espèce qui avait été introduite pour lutter contre les rongeurs, enfin les rats notamment, dans les plantations de canne à sucre. Et qui en fait se retrouve surtout à manger les espèces endémiques. Elle adore les œufs, notamment les œufs de reptiles, d'oiseaux, les œufs de tortues marines aussi. Donc on a fait tout un travail de suivi pour savoir exactement dans quel milieu elles étaient, où elles étaient. Elles sont un peu partout en fait dans ces milieux, donc c'est un gros souci. Oui.
Et les études donc continuent pour mieux connaître cette faune, la biodiversité mammalienne. Voilà, c'était le thème de l'émission aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. À bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt.
C'était la rediffusion de l'émission du 1er mars dernier. Demain, comment réduire son impact carbone sur les voyages longue distance? Ce sera le dossier de l'émission. Et dans un instant, les émissions de la campagne officielle pour l'élection présidentielle.